SBS Radio.
Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Eh bien, la campagne électorale qui continue en Australie. Bill Shorten est à Melbourne pour parler des penalty pays et l'opposition qui se défend sur l'achat d'eau au Murray Darling. Les manifestations du peuple qui continuent en Algérie et en Serbie. Et une journaliste qui a été tuée en Irlande du Nord, ce qui relance des tensions et des craintes dans le pays. Et on débute donc ce journal avec la campagne électorale en Australie. Le chef de l'opposition, Bill Shorten, qui met en garde les travailleurs avec de faibles rémunérations. Le dirigeant syndical blâme le Premier ministre des coupes dans les salaires des employés du commerce de détail, de la restauration rapide, de l'hôtellerie, ainsi que des pharmacies, alors qu'il lance sa campagne électorale donc fédérale. Monsieur Shorten a déclaré que dans les 10 jours à compter du vendredi saint, tous les travailleurs seront bien moins lotis et pourraient perdre plus de 200 $. L'opposition estime même que les travailleurs dans le secteur de la pharmacie seront les plus touchés, perdant près de 370 $. Il s'est engagé à annuler cette décision dans les 100 jours de son entrée en fonction s'il était élu. On l'écoute.
Our position is not taken lightly. We respect the independent umpire, but they got this one wrong. We live in an era of wage stagnation. Australians under this government are going through the longest, lowest period of wages growth since we were keeping records 60 years ago. So as a general rule, you don't want to interfere with the independent umpire's decision, but they got this one wrong.
Voilà donc Bill Shorten, le leader de l'opposition. Du côté de la coalition fédérale, on écarte le besoin d'une commission royale sur les achats d'eau dans le cadre du plan de Murray Darling, affirmant qu'un examen est déjà prévu pour l'année prochaine. La sénatrice des Verts, Sarah Hansen-Young, elle a écrit au vérificateur général pour lui demander de procéder à une vérification complète et urgente de tous les achats signés par l'ancien ministre Barnaby Joyce. Mais le porte-parole de la campagne électorale donc pour l'élection de 2019, Simon Birmingham, a déclaré à l'ABC que la commission royale n'était pas nécessaire. On l'écoute.
There is a already statutorily legislated 2020 review in relation to how the Murray-Darling Basin plan is being implemented and applied, and so that review will take place next year as is already required.
13h03, direction l'Algérie maintenant. Nouveau vendredi de manifestation. C'est le 9e d'affilée depuis le début du soulèvement populaire. Cette semaine encore, la mobilisation contre les autorités est restée forte. Et contrairement à la semaine dernière, les choses se sont bien passées. Tout est resté dans le calme. Mais un manifestant qui était dans le coma depuis les événements la semaine dernière est décédé. Leila Berato.
On a appris dans la soirée qu'un manifestant de 23 ans blessé la semaine dernière à Alger est décédé de ses blessures à l'hôpital Mustapha Pacha. L'enjeu cette semaine était de savoir si les manifestations allaient se passer sans heurts. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté sans incident dans la capitale. Des groupes de bénévoles étaient présents sur tout le parcours pour minimiser les risques d'affrontement avec les forces de l'ordre. Alors, les accès à la ville avaient été bloqués par la gendarmerie et dans le centre de la capitale, la police a empêché l'accès au tunnel des facultés qui était devenu un lieu mythique des manifestations, mais qui était aussi l'endroit où il y a eu des blessés la semaine dernière. Le slogan principal, aujourd'hui encore, c'était « Il faut qu'ils partent tous », mais il y avait aussi des messages pour le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, des messages pour dire qu'il faut rendre le pouvoir au peuple, que le peuple est souverain. Et puis, il y a eu aussi ces réactions aux différentes formes de violence de la part des forces de l'ordre cette semaine. Sur la rue d'Idouche Mourad, une énorme pancarte avait été déroulée en référence aux manifestants forcés de se dénuder dans un commissariat. Il était écrit « C'est une honte ce que vous avez fait à nos sœurs ».
C'était Leila Berato pour RFI. Lyra McKee est une journaliste d'Irlande du Nord. Elle a été tuée lors d'une émeute à Londonderry, donc en Irlande du Nord, c'était hier. Elle avait 29 ans. Elle a été abattue alors qu'elle se tenait à côté d'un véhicule de police dans la région de Cregan. Elle est décédée un peu plus tard à l'hôpital. Les émeutes ont éclaté dans la région après un raid de la police qui tentait d'empêcher les attaques de militants opposés aux accords de paix de 1998. Accord qui d'ailleurs avait été signé le vendredi saint. On écoute le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar.
An activist and a journalist,
En tant que journaliste et militante, Lyra Mackey a influencé des gens durant sa vie et continuera à le faire, même dans la mort. Il y a 21 ans, lors de ce même Vendredi Saint, le peuple de cette île a choisi la paix, la démocratie, la coexistence politique et une coopération plus étroite. Nous ne nous laisserons pas ramener vers le passé. La violence sectaire n'a ni place ni justification aujourd'hui en Irlande du Nord ou en Irlande. Les coupables ne partagent pas les valeurs de notre nation et nous rejetons les leurs. Il s'agit non pas d'une attaque contre une citoyenne, mais contre nous tous, notre peuple et nos libertés. Je veux ici exprimer ma solidarité avec les habitants de Derry. Nous nous tenons à vos côtés, aussi fort que les murailles de votre cité et aussi longtemps qu'elles seront debout. Je salue également le travail de la police, des secours, et j'invite quiconque détient des informations à les livrer pour que justice soit faite.
C'était le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Les émeutes ont également vu au moins 50 cocktails Molotov lancés sur les forces de l'ordre et deux voitures de police incendiées. Le chef de la police adjoint d'Irlande du Nord, Steve Martin, a déclaré que ses troupes traitaient ces événements comme des incidents terroristes commis par des personnes associées au groupe New IRA. On l'écoute.
There are people in this city who will know that the people they love are involved in organizations like the New IRA. I would urge those people to have conversations in their home, in their family space. In Lyra's memory, do it. And to urge the people they love to step away from such violence, to step away from such organizations.
Voilà donc Steve Martin, le chef de la police d'Irlande du Nord. Il est 13h07, direction la Serbie maintenant, après des mois de manifestations contre le pouvoir en place. Le président Aleksandar Vučić s'est livré à une véritable démonstration de force en réunissant des dizaines de milliers de sympathisants à Belgrade. Reportage Simon Rico.
Il y avait beaucoup de monde cet après-midi devant l'Assemblée nationale de Serbie pour assister au meeting géant organisé par le président Vučić, point d'orgue de sa campagne baptisée l'avenir de la Serbie. Moins d'une semaine après la grande manifestation de l'opposition citoyenne, le régime avait sorti les grands moyens. Tout le centre de la capitale était bloqué avec un important dispositif policier déployé et les grands axes étaient bouchés par les colonnes de bus affrétées des quatre coins de la Serbie et même des pays voisins, Croatie, Bosnie, Monténégro et Kosovo, où vivent des minorités serbes. Tandis que défilaient des images de propagande vantant les succès économiques du président Vučić, dans la foule l'ambiance était morne. Quelques applaudissements résonnaient, mais le cœur n'y était visiblement pas. Après les concerts qui ont ouvert l'événement, la première ministre a été la première à prendre la parole, critiquant violemment les opposants mobilisés depuis 4 mois. Sont ensuite montés sur scène les amis régionaux du pouvoir actuel à Belgrade, l'homme fort de l'entité serbe de Bosnie et le ministre des Affaires étrangères de Viktor Orban, avant que le président Vučić ne s'adresse à la foule, la remerciant d'être venue si nombreuse. Dès demain, l'opposition manifestera de nouveau dans Belgrade pour la 20e semaine consécutive.
C'était Simon Rico pour RFI. Des manifestations se déroulent partout en Europe ce week-end dans le cadre d'un vaste appel à l'action contre le changement climatique. À Paris, des activistes du climat ont bloqué l'entrée du siège de la Banque de France pour protester contre ses investissements dans les combustibles fossiles. Au Royaume-Uni, des manifestants se sont rendus dans certains sites clés de Londres, notamment Oxford Circus ou Waterloo Bridge ou encore Westminster, pour la 5e journée consécutive de manifestations. Et à Rome, la militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, a dirigé des manifestations. Elle était à la tête de ces manifestations et elle a discuté des moyens pour sauver la planète. On l'écoute.
Humanity is standing at a crossroads. We must now decide which path to take. How do we want the future living conditions for all species to be like? We are here today because we have decided which path we want to take. And now we are waiting for the others to follow our example.
Voilà, donc il est 13h10, un mot de sport pour terminer ce journal. Et deux matchs avancés de la 33e journée de Ligue 1 en France. Les résultats avec Alain Bernard.
Rennes ne s'est pas rassuré à 8 jours de sa finale de la Coupe de France. Ce sera face au Paris Saint-Germain. Rennes qui s'est incliné 3-2 sur la pelouse de Dijon. Dijon qui poursuit son opération maintien en Ligue 1. Et puis fin de la mauvaise série pour Lyon qui s'est offert une victoire 2-1 contre Angers.
Voilà, donc Alain Bernard, les autres matchs de cette 33e journée, Guingamp recevra Marseille, Nice recevra Caen, Nîmes recevra Bordeaux, Strasbourg recevra Montpellier, Nantes recevra Amiens, Toulouse recevra Lille, Reims recevra Saint-Etienne, et Paris Saint-Germain recevra Monaco. Au classement, le PSG est toujours en tête, n'est toujours pas champion, mais toujours en tête. Ils sont devant Lille, Lyon, Saint-Etienne et Marseille. En bas de classement, Dijon, Guingamp et Caen ferment la marche. En AFL, donc en football australien, Port Adelaide a battu les tenants du titre hier à Perth par 42 points, 95 à 53. On écoute l'entraîneur des West Coast Eagles, Adam Simpson.
We'll look at it. We've got 15 or 16 night games this year, so if we can't play in slippery weather, we're going to be in strife. So I hope it's a bit deeper than that. But our start was an indicator for us that they were on the hunt, and we didn't match it.
Voilà, donc Adam Simpson, l'entraîneur des West Coast Eagles, vous l'aurez compris, ils ont joué sous une pluie diluvienne. Auparavant, Essendon s'était bien révélé être trop bon pour North Melbourne. Ils ont battu l'équipe de 58 points à Docklands Stadium. Coup d'œil météo dans le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 18 degrés, Adelaide 32, Melbourne 30 degrés, Hobart 23, Canberra 26, Sydney 25, Brisbane 26, Cairns 30 et Darwin 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, donc pour ce 20 avril, la campagne électorale qui continue en Australie. Bill Shorten est à Melbourne, il parle des penalty pays et l'opposition qui se défend sur l'achat d'eau au Murray Darling. Les manifestations du peuple qui continuent en Algérie et en Serbie, on en a entendu beaucoup parler dans ce journal. Et on l'a vu aussi, une journaliste tuée en Irlande du Nord qui relance les tensions et les craintes dans le pays.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.